Salutations chaleureuses, je vous souhaite à vous tous un excellent sabbat. Imaginons le temps du sermon aujourd'hui que nous vivons à l'époque de Josué. Que ferions-nous la fin de semaine de la Pentecôte? Eh bien, pour commencer, plantons le décor. Nous avons tous grandi à une époque où Israël errait dans le désert. Nos souvenirs d'enfance sont de vivre dans des tentes. Les tentes, les températures dans les tentes étaient extrêmement chaudes pendant la journée et glaciales la nuit. Le désert était principalement aride. Nous savions ce que c'était d'avoir soif. Nous connaissons tout sur les serpents et les scorpions, ainsi que d'autres bestioles qui se trouvent dans le désert. Nous n'avons jamais eu à demander à nos mamans « qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» parce que c'était toujours la manne. La manne pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous avons grandi en pensant que des sandales ne s'usent jamais, car c'était le cas pour nos sandales. Les sandales de nos parents ne se sont jamais usées. Les sandales pour les enfants étaient transmises d'un enfant à l'autre pendant 40 ans, sans s'user. Nous avons grandi avec la présence constante de la nuée de Dieu et la colonne de feu la nuit. Et il nous a montré où il fallait planter nos tentes, où il fallait camper, et pendant combien de temps. Quand la nuée commençait à se déplacer, nos familles commençaient à tout s'emballer, et en fait, il n'y avait pas grand-chose à emballer, mais c'est là où on commençait à se déplacer de nouveau. On rassemblait les troupeaux de moutons et de chèvres, et on reprenait la route. Le rythme de nos vies tournait autour du sabbat hebdomadaire, et les jours saints annuels. Nous avons vu des miracles. Les plus âgés d'entre nous se souviennent des plaies en Égypte, la joie de la libération en quittant l'esclavage, la séparation de la mer Rouge et la délivrance de Pharaon. Nous nous souvenons de rivières d'eau qui jaillissaient des rochers, la nuée de cailles qui est tombée dans le campement. Nous nous souvenons de la nation qui était punie pour l'idolâtrie plusieurs fois, le veau d'or, et pour l'incrédulité de la gourmandise, et pour les murmures qui se faisaient. Et bien sûr, nous nous souvenons du moment quand Dathan, Corée et Abiram se sont rebellés contre Dieu et contre Moïse, et personne n'oubliera parmi nous le moment quand la terre s'est ouverte, et engloutit ces hommes avec leur famille. Nous nous souvenons aussi de l'éclair de feu qui a tué, soudain, les 250 autres hommes qui, en rébellion, ont essayé d'offrir de l'encens devant Dieu. Ce sont des événements que nous n'oublierons jamais. Et maintenant, après 40 ans, 40 longues années dans le désert, la seule vie dont la plupart d'entre nous se souviennent, nous sommes enfin entrés dans la terre promise. Le dernier de nos parents, la vieille génération rebelle qui a murmuré sur le rapport des 10 espions, est mort dans le désert. Moïse, l'homme de Dieu, est mort lui aussi sur le mont Nebo. Et maintenant, sous la conduite de Josué, nous avons participé à la traversée historique du Jourdain, qui s'est ouverte, cette rivière aussi, quand les pieds des Lévites entrèrent dans l'eau. Ainsi, nous avons pénétré dans la terre promise, dont nous rêvions depuis si longtemps. Maintenant, avec l'aide de Dieu, nous chassons les Cananéens de ce pays que Dieu nous a donné. Nous avons maintenant, pour la première fois depuis 40 ans, de vraies maisons. Nous habitons dans des villages et dans des villes. Nous avons des terres fertiles que nous pouvons cultiver et nous ne mangeons plus de la manne. Nous étions reconnaissants de l'avoir, mais il faut dire qu'elle était devenue un peu monotone. Maintenant, nous pouvons manger du pain, des légumes, des fruits. Oh, les poireaux, les concombres et les melons, comme c'est délicieux maintenant. La nouvelle aventure commence dans cette terre promise. Ce sont probablement quelques-unes des pensées qui ont traversé l'esprit des Israélites dans les premières années de leur nouvelle vie dans la terre promise par l'Éternel. Et il y avait une cérémonie particulière associée au jour de la Pentecôte, aux prémices et à l'accomplissement des promesses de l'Éternel envers les Israélites. La cérémonie a commencé à s'appliquer lorsque les Israélites sont entrés en Canaan. Et je propose qu'aujourd'hui nous examinions cette cérémonie spéciale pour voir ce que nous pouvons en apprendre. Il existe un certain nombre d'offrandes associées à la fête de la Pentecôte. L'une des offrandes associées à la Pentecôte a eu lieu, en fait, pendant la fête des pains sans levain. C'est ce que nous lisons dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 9. Lévitique 23, à partir du verset 9. Lévitique 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau, d'un an, sans défaut, vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Verset 14, vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti ou brouillé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Donc, pendant la fête des pains sans levain, le lendemain du sabbat, on devait offrir à Dieu du pain sans levain, de vin avec un agneau mâle, ce qui préfigure évidemment les symboles de la Pâque du Nouveau Testament. Puis, 50 jours après la Pentecôte, c'est-à-dire au moment de la Pentecôte, 50 jours après cette offrande pendant la fête des pains sans levain, pendant la Pentecôte, il devait avoir une autre offrande. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande de la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux, elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce même jour, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc une autre offrande, lors du jour de la Pentecôte. Cette fois-ci avec du pain levé, non pas le pain sans levain que nous avons vu pendant l'offrande précédente, mais avec du levain, c'est-à-dire le levain qui représente le péché pendant le temps de la fête des pains sans levain. Ces 2 pains offerts lors de la Pentecôte nous représentent. Nous sommes les prémices de Dieu. Nous ne sommes pas exempts du péché. Le péché existe en nous. Nous sommes en lutte constante contre le péché. Alors, ces offrandes, ces 2 pains agités, offerts devant Dieu, eh bien, nous représentent l'Église. Le jour de la Pentecôte, le même jour quand l'Église a été fondée en l'an 31. Dans Nombre chapitre 28, Nombre 28, verset 26, nous lisons une chose intéressante. Nombre 28, verset 26. Là, nous avons un autre nom pour le jour, la fête de la Pentecôte. Nombre 28, verset 26. Le jour des prémices. Cette fête est appelée le jour des prémices. Où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce que nous allons célébrer demain, la fête de la Pentecôte, qui veut dire compter 50, c'est aussi appelé le jour des prémices et la fête des semaines, puisqu'il fallait compter 7 semaines. Et on offrait des prémices ce jour-là. Cela représente, encore une fois, l'Église. Les prémices, les premiers fruits que Dieu va récolter dans sa grande récolte spirituelle. Pour les Israélites, toutes ces offrandes représentaient le fait que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Il leur donnait à manger. Ils ont signalé ces offrandes le début de la récolte et la fin de la récolte des céréales. Le début pendant la fête des pains sans levain et la fête de la Pentecôte marquait la fin, est une célébration de cette récolte. Évidemment, les Israélites ne pouvaient pas comprendre pleinement la signification de la fête de la Pentecôte, comme nous le pouvons maintenant à la lumière du Nouveau Testament. Pour eux, c'était simplement une célébration de la récolte que Dieu leur donnait. C'était des cérémonies nationales célébrées par les Lévites et les sacrificateurs au nom de toute la nation d'Israël. Nous en apprenons davantage à propos de ces symbolismes et leur signification dans le Nouveau Testament autour de la fête de la Pentecôte. C'est une chose que nous sommes en train d'explorer d'ailleurs aujourd'hui. Les Juifs relient le jour de la Pentecôte à encore une autre cérémonie mentionnée cette fois-ci dans Deutéronome chapitre 26. C'était cette fois-ci une cérémonie personnelle. Les offrandes que nous avons vues jusqu'à présent pendant la fête des pains sans levain, pendant la Pentecôte, étaient des offrandes nationales, accomplies par des représentants, des délégués de la nation. Mais il y avait aussi une autre offrande personnelle, offerte par chaque famille. Et encore aujourd'hui, les Juifs ceux qui pratiquent le judaïsme, eh bien, ils vont lire ce passage de l'Écriture dans le cadre de leur célébration de la Pentecôte. C'est pour cela que nous voulons le prendre aujourd'hui. Regardons maintenant Deutéronome chapitre 26. Deutéronome chapitre 26, nous commencerons au verset 1. Deutéronome chapitre 26, à partir du verset 1. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et tu y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, « Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec les prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Donc ici, il y avait une offrande familiale des prémices. Il s'agit très certainement d'une cérémonie qui accompagnait la fête de la Pentecôte. Il y avait un aspect national des célébrations, mais aussi un aspect familial de cette adoration. Alors, qu'est-ce que les Israélites devaient faire, famille par famille? Nous voyons au moins quatre choses qui sont mentionnées ici. D'abord, ils devaient réfléchir sur leur histoire. Comment ils étaient arrivés là où ils étaient à ce moment-là? Quelle était leur histoire nationale? Deuxièmement, ils devaient reconnaître que la promesse de Dieu avait été accomplie. Ils étaient arrivés dans la terre promise là où ils devaient être, là où Dieu avait promis à leur père de les amener. Troisièmement, ils devaient adorer Dieu en obéissant à ses instructions et en lui donnant le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de ce qu'ils avaient, les prémices, nous en reparlerons dans quelques instants. Et quatrièmement, ils devaient se réjouir des bénédictions de Dieu, se réjouir des bénédictions divines dont ils étaient l'objet. Si nous vivions du temps de Josué, nous donnerions cette offrande pendant cette fin de semaine, peut-être demain lors de la Pentecôte. Notre panier serait déjà prêt. Nous aurions gardé un œil sur notre récolte dans le champ pour pouvoir choisir le meilleur de notre récolte pour donner cela à Dieu. Et nous irions au tabernacle afin de déposer notre panier devant les sacrificateurs. Il y a des applications de cette offrande familiale à nous. Les symboles qui existent dans l'Ancien Testament sont là pour nous enseigner certaines leçons, pour souligner certaines choses dans nos esprits. Et il en est ainsi avec cette offrande familiale, et c'est ce que nous voulons examiner aujourd'hui. Ces quatre points que nous avons vus dans ces instructions divines. Le premier point était de réfléchir à son histoire. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devrions réfléchir à notre histoire. Comment Dieu nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Comment il est intervenu dans nos vies pour nous guider, pour nous protéger et pour nous amener au point où nous pouvons être là où nous sommes aujourd'hui. Le verset 5 dit « Mon père était un Araméen sur le point de périr. » Ils devaient, les Israélites, méditer sur l'Égypte, sur l'esclavage, sur les miracles que Dieu avait accomplis, sur la délivrance de l'Éternel. Il est bon pour nous, à ce moment de l'année, de réfléchir à cela dans nos vies également. Regardons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Paul écrit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Avant notre appel par Dieu, nous étions spirituellement éloignés de Dieu. Avant notre appel, nous n'avions aucun espoir dans le monde. Nous étions sans Dieu dans le monde, sans le vrai Dieu du moins. Nous n'avions aucune compréhension du plan de Dieu, de ce qu'il voulait accomplir, ce qu'il va accomplir. Nous n'avions pas de but vraiment valable. Nous n'avions pas d'espoir. Il nous a montré sa miséricorde et il nous a appelés à la vérité. Il a ouvert nos esprits de pouvoir comprendre son plan de salut pour l'humanité. Il nous a appelés à faire partie de son œuvre, l'œuvre la plus importante qui soit sur terre aujourd'hui. Et il nous fait des promesses incroyables qui vont durer pendant toute l'éternité. Voilà notre appel. Voilà d'où nous sommes partis, où nous avons commencé pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. George Santayana a dit très fameusement, « Ceux qui ne se souviennent pas du passé seront condamnés à le répéter. » si nous n'apprenons pas des leçons de ce qui s'est passé, nous allons refaire les mêmes erreurs. C'est ce qu'ont fait les Israélites. Les Israélites ont continué à oublier leur passé, oublier ce qui se passe suite à la rébellion contre Dieu, les punitions qui devaient tomber sur eux, et ils ont maintes fois répété les mêmes erreurs, se détourner de Dieu, être punis, revenir crier à Dieu pour une solution à leurs problèmes, et puis une génération ou deux après retomber dans les mêmes erreurs. À peu près 40 ans après la rédaction de l'Épître aux Éphésiens, que nous venons de lire, Jean a reçu des visions de l'Apocalypse. Et une des églises qui est mentionnée dans Apocalypse était l'église d'Éphèse. Et ce que Jésus a dit à l'église d'Éphèse, c'était de se souvenir de leur passé. C'est très important de se souvenir de notre passé, d'où nous sommes partis. Regardons Apocalypse chapitre 2, verset 1. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de tes débuts. Souviens-toi du fil conducteur de ta vie. Une grande clé pour garder notre premier amour, notre enthousiasme, la motivation dont nous avons besoin à longue haleine dans la vie, c'est de nous rappeler comment c'était dans nos débuts spirituels, dans notre appel. Quand nous avons été appelés pour la première fois, le sentiment de délivrance, l'excitation, la joie que nous avons ressentie, la reconnaissance, le dévouement sans réserve envers Dieu et son mode de vie. Un commentaire de la Bible dit qu'au moment où Jean a écrit, il a reçu cette vision en Apocalypse, la plupart des Éphésiens étaient des chrétiens de deuxième ou de troisième génération. Une partie de leur enthousiasme était retombée. Ils n'étaient pas aussi enthousiastes que peut-être leurs parents l'avaient été au début. Et pour les chrétiens de deuxième ou de troisième génération, comme moi, ça peut être un défi de maintenir chaud cet amour, de maintenir vivant notre engagement vis-à-vis de Dieu et de son appel. La solution à ce défi, c'est de nous souvenir de comment c'était au début, de nous repentir et de faire les premières œuvres, de faire comme nous faisions au début de notre appel, d'agir comme nous l'avions fait quand Dieu nous a appelés tout au début, quand il nous a appelés pour la première fois. Faire, accomplir les premières œuvres. J'ai une inscription, je vous ai déjà parlé de ça, dans l'intérieur de la couverture de la Bible que j'avais quand j'étais à la Maslow College, et j'y ai inscrit une citation, quelque chose que M. Herbert Armstrong avait dit, qui m'avait beaucoup frappé et que je ne voulais jamais oublier. Il a dit ceci, « Dieu n'appelle pas les gens par faveur, pour leur faire une faveur. » Dieu appelle les gens parce qu'il veut qu'ils accomplissent une mission. Et c'est vrai. Dieu nous a appelés non pas simplement pour nous faire une fleur, il nous a appelés parce qu'il a quelque chose qu'il veut que nous accomplissions. Et la question à se poser, c'est est-ce que je m'y concentre encore? Est-ce que je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Dans cette offrande familiale des prémices, Dieu a dit aux Israélites de réfléchir à leur passé, de se souvenir de comment ils étaient arrivés là où ils étaient au moment de donner cette offrande, de se souvenir des miracles de Dieu, de son intervention dans leur vie, de sa bonté. Et nous devons faire cela également, frères et sœurs. Nous devons nous souvenir de tout ce que Dieu a fait dans nos vies et lui rendre grâce pour sa bonté. La deuxième chose qui était impliquée dans cette cérémonie était de reconnaître que Dieu tient ses promesses envers nous et qu'il veille sur nous. Deutéronome chapitre 26, verset 3, nous l'avons lu tout à l'heure. Et c'est, tu présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Dieu a tenu parole. Il a accompli les promesses qu'il nous avait faites. Nous autres êtres humains, nous ne tenons pas toujours nos promesses. On dit à propos des hommes politiques, rien ne rend plus difficile de se souvenir des promesses de campagne que d'être élu. Sitôt élu, on a tendance à oublier tout ce qu'on avait promis auparavant. Nous ne tenons même pas nos promesses envers nous-mêmes, n'est-ce pas? Peut-être au début de l'année, nous nous fixons un but, cette année je vais faire ceci ou cela, et le plus souvent on n'arrive pas à le faire. Quelqu'un a dit à propos de ça un jour, « Si vous teniez toutes les promesses que vous vous êtes faites, vous seriez probablement mince, intelligent, en bonne santé, riche et peut-être ennuyé également. Mais nous ne tenons pas nos promesses envers nous-mêmes. Car les promesses sont aussi fiables que les personnes qui les font. Et personne d'entre nous n'est entièrement fiable dans la chair. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas accomplir tout ce que nous voulons accomplir. Nous acceptons et nous reconnaissons généralement que Dieu a tenu ses promesses dans le passé. Mais il est plus difficile de le reconnaître lorsque nous sommes au milieu d'une difficulté, lorsque nous sommes éprouvés. C'est là où on doute de Dieu. Mais où est-il? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Je veux de l'aide maintenant. Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Et Dieu tient ses promesses. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces vis-à-vis du péché. Nous pourrons toujours supporter la tentation. Dieu intervient pour le rendre obligatoire. À chaque fois, nous pouvons résister à la tentation. Et Hébreux chapitre 13, verset 5, cette promesse de Dieu nous montre qu'il est présent minute par minute dans nos vies. Si une tentation serait trop forte pour nous, il interviendrait pour changer la situation. C'est l'implication de cette promesse. Et dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5, nous lisons quelque chose de très encourageant également. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Dieu ne nous quitte jamais, même si il semble que ce soit le cas. Dieu n'est pas ouvertement présent avec nous tout le temps, mais il est toujours avec nous, même quand nous ne le voyons pas. nous pouvons être rassurés par cette connaissance, quelle que soit notre situation. Nous sommes, de temps en temps, mis à l'épreuve, et nous ne devons pas faire de compromis avec le mal quand nous sommes tentés, mais même au milieu des épreuves, nous devons avoir la certitude que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés, c'est ce qu'il promet. Je ne vous laisserai jamais. Il ne nous laisse pas tomber. Même si la situation semble très difficile, et parfois c'est difficile. Mais Dieu nous accompagne à travers toutes les difficultés de la vie. Revenons à 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 8. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. L'apôtre Paul se souvient de moments difficiles dans sa vie. Il dit, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui qui nous, de qui nous espérions qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistiez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Nous sommes parfois confrontés à des épreuves qui dépassent nos capacités, qui dépassent nos forces, qui sont trop pour nous seuls. Paul a dit, ça dépassait, nous étions convaincus qu'on allait mourir. L'épreuve était si grave. Mais même dans ces moments-là, quand ça semble impossible, Dieu dit qu'il est encore là pour nous. Il ne nous abandonne pas. Dieu est là dans ces moments-là pour fournir ce qui nous manque, l'aide, la force. Il nous guide. Il nous soutient dans ces moments-là, même si nous n'avons pas la conscience de la chose. Nous ne ressentons pas forcément son aide, mais elle est là. Le théologien N.T. Wright a dit, « Nous ne devons pas être surpris si vivre en chrétien nous amène au point où nous découvrons que nous sommes à bout de ressources et que nous sommes appelés à compter sur le Dieu qui ressuscite les morts. » Même la mort ne limite pas l'Éternel, notre Père céleste. La mort ne le limite pas. Et c'est ce que Paul a dit. On était convaincus qu'on allait mourir, mais nous mettions notre confiance dans le Dieu qui ressuscite les morts. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre dans de telles circonstances? Nous aussi, nous devons avoir cette confiance dans notre Père céleste, quelle que soit la situation qui nous entoure. Regardons également 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 19. 1 Pierre chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. La souffrance fait partie de la vie. Jésus-Christ, notre frère aîné, a beaucoup souffert pendant sa vie. Il nous a montré l'exemple. Et il a surmonté ses souffrances et ses défis parfaitement. Nous laissons un exemple afin que nous suivions ses traces. Dieu, notre Père, est fidèle. Il tient ses promesses. Nous devons y penser régulièrement, et surtout en période d'épreuve. Et c'est une des leçons que nous devons tirer de cette offrande de prémices, cette offrande familiale accomplie en Israël à l'époque de la Pentecôte. La troisième leçon à tirer de cette offrande-là, c'est que nous devons adorer Dieu en lui obéissant et en lui donnant ce que nous avons de meilleur. Deutéronome chapitre 26, verset 10. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Les prémices. Le mot en hébreu, qui est traduit par prémices en français, ne signifie pas seulement premier chronologiquement, les premiers fruits à mûrir. Ça ne veut pas dire cela uniquement. Ça a le sens d'être premier en qualité, de meilleure qualité. Les prémices, c'est ce qu'il y a de mieux dans la récolte qu'on va donner à Dieu. C'était l'offrande que les Israélites devaient apporter à Dieu. Le plus bel des prémices. Et nous devons donner à Dieu ce que nous avons de meilleur, de nos vies également. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand nous nous rendons compte de tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il nous a donné, la seule chose raisonnable à faire, c'est de nous donner entièrement en sacrifice à Dieu, de mettre nos vies entièrement à sa disposition. Verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est notre service raisonnable, c'est rationnel, c'est de raison. Ce que nous faisons prend tout son sens lorsque nous comprenons la grandeur de Dieu. Et tout ce qu'il nous a donné, et tout ce qu'il nous offre pour l'avenir. La seule chose raisonnable à faire, c'est de nous donner entièrement à lui. La seule chose raisonnable à faire. Mais alors, comment vivons-nous comme des sacrifices vivants, de prémices spirituelles? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, une chose que nous devons faire, c'est ne pas vivre en conformité avec le monde. Si nous suivons le train du monde, nous ne sommes pas entièrement à l'Éternel. Et ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que l'être humain n'aime pas être différent des autres. Nous n'aimons pas nous faire remarquer par une différence comparée aux autres personnes. C'est beaucoup plus facile et confortable de faire comme tout le monde. L'instinct de foule est grande. Nous voulons être comme tout le monde. Je pense que je vous ai déjà parlé d'une expérience scientifique qui était faite à partir de 1951 par un certain docteur Salomon H. qui a commencé cette expérience qui est connue aujourd'hui comme les expériences de conformité d'H, nommée pour le chercheur qui l'a fait. Il a pris des groupes de personnes, 8 personnes à la fois, dont une seule était l'objet de l'expérience. 7 des 8 savaient ce qu'ils faisaient, ils recevaient des instructions, et on regardait seulement le 8e, qui, lui, ne savait pas ce qui se passait dans cette expérience. Alors, on l'a montré à ces 8 personnes, une ligne de contrôle, et sur une autre carte, 3 lignes de longueur différente. Une des lignes était exactement la même dimension que la ligne de contrôle, et les deux autres étaient plus courts ou plus longs. Et puis on a dit aux 7 personnes qui faisaient partie de l'expérience de donner une mauvaise réponse. Tous les 7 donnaient une mauvaise réponse. Et puis on observait le 8e qui ne savait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé quand il devait, en dernier lieu, donner sa réponse? Quelle était la ligne qui ressemblait à la ligne contrôle? Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la pression de faire comme tout le monde était très forte. 75% des participants ont donné une réponse fausse, une réponse incorrecte, au moins à une des questions. Et seulement 25% de ceux qui faisaient partie de cette expérience n'ont jamais donné de mauvaise réponse. Seulement 25% avaient la confiance et la capacité de dire, mais non, les 7 autres se trompent, c'est cette ligne-là. C'est une expérience parmi d'autres qui montre à quel point c'est difficile de résister à la pression des semblables, résister à la pression de faire comme les autres. Et nous devons être sur nos gardes parce que le monde va dans le mauvais sens. Et il y a une certaine pression sur nous de nous conformer et de suivre cette mauvaise direction. Quelqu'un a dit en riant une fois, « Vous êtes unique, comme tout le monde. Vous êtes unique comme tout le monde. » Nous ressentons cette pression de faire comme tout le monde. J'ai lu l'histoire d'un homme de Brooklyn à New York qui a paru devant un juge pour officiellement changer son nom de famille. Son nom de famille était Murphy, irlandais. Il voulait le changer en Feinberg, allemand. Puis un an plus tard, il est apparu devant le même juge pour changer son nom de nouveau. Il voulait changer Feinberg en Garibaldi, italien. Le juge était un peu fâché par ça. Il a dit, mais vous essayez de vous moquer de ce cours de justice. Et l'homme a répondu, pas du tout, votre honneur. Mon quartier ne cesse de changer de démographie. Il voulait avoir un nom comme tout le monde. Il ne voulait pas se démarquer des autres. Souvent, les effets de la pression des semblables, la pression du monde, souvent ces effets ne sont pas humoristiques, comme ces quelques anecdotes que je vous ai racontées. Le monde nous affecte plus que nous ne le sachions, très souvent. La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs, la Bible nous dit. Et nous n'aimons pas ça, mais nous vivons dans un monde corrompu. Et cette corruption risque fort de nous toucher, au moins parfois. Les problèmes que nous retrouvons dans l'Église, dans la vie des membres, sont affectés, viennent en grande partie de l'exemple qu'ils voient autour d'eux dans le monde. Ce qui se passe dans le monde nous affecte. Et nous devons être sur nos gardes pour éviter de nous laisser entraîner par les mauvaises choses dans le monde. Dieu a fait sortir les Israélites de l'Égypte, mais Dieu n'a jamais complètement sorti l'Égypte des Israélites. Il a sorti les Israélites de l'Égypte, mais il n'a jamais pu complètement sortir l'Égypte des Israélites. Et c'est une chose contre laquelle nous devons faire très attention. C'est un bon exercice pour nous de nous regarder, de regarder ce qui ne va pas dans le monde et puis de dire, est-ce que ça déteint un peu sur moi? Est-ce qu'il y a des effets de ce qui se passe dans le monde dans ma vie? Suis-je affecté par les attitudes et les préoccupations du monde? Et nous devons être très sensibles à cela pour pouvoir ne pas suivre le train du monde. C'est une façon d'être entièrement à Dieu et de donner à Dieu ce que nous avons de mieux. Un deuxième aspect de cela, c'est d'être transformé par le renouvellement de notre esprit. Et cela passe par l'activité du Saint-Esprit. Notre esprit humain devrait être en train de se renouveler, de passer des préoccupations physiques aux préoccupations spirituelles, d'être plus préoccupé par ce qui est spirituel que par ce qui est physique. Éphésiens chapitre 4, regardons. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Mais prenons le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il y a des convoitises trompeuses. La convoitise est trompeuse parce que les objets que nous convoitons promettent de nous rendre heureux, mais ne le font pas. Parce que des choses ne nous rendent pas heureux à long terme. Un peu de joie peut-être sur le coup, et puis nous oublions. Ils ne nous rendent pas heureux à long terme. Et c'est ça ce qui est trompeux à propos des convoitises. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit, « Je gouvernerai ma vie et mes pensées comme si le monde entier devait voir l'un et lire l'autre. Et en fait, Dieu voit tout ce qui se passe dans nos vies. La Bible dit que nous sommes nus devant lui. Il sait tout ce qui se passe, tout ce que nous pensons. Ce signifie rendre quelque chose secret au prochain est inutile puisque Dieu voit tout. Il voit tout. Donc, nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit. Notre esprit doit être renouvelé de jour en jour afin que nous passions des préoccupations physiques aux préoccupations spirituelles. Et la quatrième chose maintenant que nous tirons de cette offrande familiale des prémices, c'est que nous devons nous réjouir des bénédictions que Dieu nous donne. Deutéronome chapitre 26, verset 11. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu te donne, t'a donné à toi et à ta maison. Nous avons beaucoup, frères et sœurs, mais il y a une tendance humaine de prendre pour acquis les bonnes choses que nous avons et de nous concentrer sur ce que nous voudrions avoir autrement, ce qui n'est pas bien dans notre estimation. J'ai lu que certains chercheurs scientifiques ont fait des expériences qui tentent à démontrer que les personnes grincheuses vivent plus longtemps que les autres, que les personnes sereines et reconnaissantes. Apparemment, se plaindre leur donne une raison de vivre. Mais un autre chercheur a fait remarquer que peut-être c'est pas qu'ils vivent plus longtemps, mais cela semble être le cas pour le monde qui les entoure. Il semble que ça n'en finit jamais avec les plaintes. Nous prenons pour acquis les bonnes choses et nous oublions des choses qui sont tellement bien dans nos vies. Je vous ai raconté l'histoire d'avoir officié aux funérailles d'une jeune fille de 15 ans. J'avais passé beaucoup de temps avec la famille dans les quelques jours avant les funérailles. Et je me souviens, j'étais assis dans le salon avec son père, la père de cette jeune fille, et il m'a dit, les larmes aux yeux, « Monsieur Micker, je ne savais pas que j'étais heureux. Je ne savais pas que j'étais heureux. » C'est seulement quand sa fille lui a été enlevée qu'il s'est rendu compte à quel point il était heureux de l'avoir dans sa vie. Il la prenait pour acquis. Combien de choses, combien de personnes est-ce que nous prenons pour acquis? Ça ne devrait pas être le cas pour nous. Quelle bénédiction prenons-nous pour acquise sans y prêter garde? Nous devrions vraiment remercier Dieu, prendre le temps de réfléchir à toutes les bonnes choses que nous avons et être reconnaissants envers Dieu. J'ai lu l'histoire des parents d'un jeune homme qui avait été tué pendant la guerre 14-18 et ils ont fait une offrande à leur église de 1000 francs en souvenir de leur fils, leur être cher. Lorsque cette présentation a été faite, une autre mère d'un soldat qui était à la guerre, elle a chuchoté à son mari, « Donnons la même chose pour notre garçon. » Le père a dit, « Mais pourquoi, de quoi parles-tu? Notre fils n'est pas mort à la guerre. » Et la maman a dit, « Justement, donnons cette offrande parce que nous l'avons encore. Il est encore en vie. » Et c'est une meilleure façon de voir les choses, d'être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Nous devons être reconnaissants pour ce qu'il nous donne et nous devons être reconnaissants aussi pour ce qu'il empêche de nous arriver. Et ça, on ne saura pas complètement jusqu'à la résurrection, jusqu'au retour de Christ. Mais Dieu accorde une protection à nous, à nos familles. Nous connaîtrons toute cette histoire-là au retour de Christ, mais par les promesses de la Bible, nous savons que Dieu intervient pour nous protéger. Qu'est-ce qu'il a empêché de nous arriver dans la vie? Peut-être que nous voyons certains aspects de cela. Nous le verrons entièrement au retour de Christ. Jacques chapitre 1, s'il vous plaît, Jacques chapitre 1, verset 16. Jacques chapitre 1, verset 16. Jacques chapitre 1, verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Tout don parfait vient de Dieu. Nous sommes prémices à cause de ses dons, à cause des dons qu'il nous a donnés. Réfléchissons aux bénédictions que Dieu nous donne, à nos, les membres de nos familles, à nos amis, à la vérité qu'il a révélée pour nous, à notre appel. Remercions Dieu pour le plan, son plan de salut pour l'humanité, l'espoir que nous avons pour l'avenir, la certitude qu'il y aura une fin heureuse à l'histoire de l'humanité. L'abondance physique, quand Dieu nous l'accorde, nous devons remercier Dieu aussi pour nos bénédictions. En République centrafricaine, à côté du Cameroun où je passe un certain temps, il y a une tribu qui s'appelle les Kari ou les Karais. Ils ont une expression intéressante de gratitude. C'est s'asseoir par terre devant. S'asseoir par terre devant. Il y a un mot dans leur langue qui indique cela. S'asseoir par terre devant un autre, c'est-à-dire un Kari reconnaissant, se rendra chez son bienfaiteur et s'assiera par terre devant sa hutte. Aucun mot n'a besoin d'être prononcé. Sa veillée silencieuse signifie sa gratitude. Moi, je crois que si nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu, nous essayerons, nous aussi, de nous asseoir devant lui, de passer du temps à profiter de sa présence. La vraie gratitude exige que nous recherchions la présence de Dieu, sa communion. Et nous faisons cela pendant les assemblées, quand nous sommes assemblés avec d'autres frères et sœurs. Nous le faisons par la prière et l'étude de sa parole. Nous prenons le temps de nous asseoir par terre devant Dieu. C'est une façon de démontrer notre reconnaissance envers lui. Il est important, à l'époque des jours saints, de réfléchir aux bénédictions que Dieu nous a données et de le remercier en détail pour ses bienfaits. Je vous encourage à prendre un peu de temps, aujourd'hui et demain, le jour de la Pentecôte, et de dire à Dieu, je me souviens où j'étais et comment j'étais quand tu m'as appelé. Je me souviens à quoi ressemblait ma vie à l'époque. Une vie plutôt vide, sans but, dirigée vers une impasse. Et maintenant, vous m'avez amené ici, à l'Église de Dieu. Tu m'as donné de grandes promesses et tu les accomplis dans ma vie. Merci pour tes bénédictions. Alors, frères et sœurs, alors que nous célébrons la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, rappelons-nous des leçons de la cérémonie des prémices que Dieu avait données aux Israélites. Si nous le faisons, nous allons réfléchir à notre histoire, comment Dieu nous a appelés, comment il nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Nous allons reconnaître que Dieu tient ses promesses, et bien plus encore, il veille sur nous. Nous devons adorer Dieu en lui obéissant et en lui donnant le meilleur de ce que nous avons. Et nous devons nous réjouir et compter les bénédictions de Dieu dans nos vies. Si nous le faisons ainsi, frères et sœurs, nous allons nous rapprocher de Dieu, nos vies seront plus épanouies et plus heureuses, et nous allons célébrer comme il faut la fête de la Pentecôte.